France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonne année, hein, bien sûr. Cela dit, reconnaissez-le, il est des débuts d'année comme ça où se présenter nos vœux apparaît à la fois incongru et nécessaire. Alors, ce que l'on peut se souhaiter au moins, c'est d'ouvrir les yeux et de ne pas fermer sa bouche. Nous allons parler de cela aujourd'hui, à partir d'une photographie célèbre, la plus célèbre peut-être, des photographies de presse. Elle fut prise par Hossein Zaourar le 23 septembre 1997 à Bentala, banlieue d'Alger. La veille, le GIA y avait perpétré l'un des massacres les plus sanglants de cette décennie noire de guerre civile qui, de 1992 à 2002, fit au moins 200 000 morts en Algérie. Le lendemain, la photo faisait la une de plus de 750 journaux dans le monde, avec le plus souvent, pour légende, la Madone de Bentala. Une Madone, vraiment ? Faut-il qu'une image ressemble à une Pietà pour qu'elle réalise ce miracle de nous sortir de notre torpeur, de nous faire ouvrir les yeux et peut-être même, allez savoir, ne plus fermer la bouche sur cette violence qui nous submerge? Tu y verras une femme qui crie, bouche ouverte, au-delà des mots, visage tordu comme quand la douleur vous plonge dans le vide. La femme hurle ou semble au bout d'un long hurlement. Tout est desséché sur son visage. On lit cela dans Houri, le roman de Kamel Daoud que nous sommes heureux de recevoir en compagnie de l'historienne Juliette Henrault, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour Pierre Saint-Garavelou. On voit cela aussi pour se souvenir de cette histoire que Mounia Medour donna à comprendre si justement en 2019 dans son film Papicha.
Tu veux prendre une balle, c'est ça ?
Moi je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout.
Juliette Henrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire. Vous avez publié en 2012 aux éditions Armand Collin un très beau livre, très intéressant, La Madone de Bentala, histoire d'une photographie. Vous vous souvenez la première fois que vous avez vu cette image ?
Non, je me souviens de la première fois qu'on m'en a parlé, puisque c'était mon directeur de recherche de l'époque, Jacques Semelin, qui m'avait dit « Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas sur la photographie, cette photographie d'une mère qui tient son enfant mort dans les bras ?»
Jacques Semelin, il travaille sur les crimes de masse.
Oui, c'est ça. Et donc, il me l'avait décrite comme une mère tenant son enfant mort dans les bras.
Alors, ce qui n'est pas tout à fait ça.
Ce qui n'est absolument pas ça.
Et c'est de ça dont on doit parler, justement.
Oui,
c'est-à-dire ce qu'est l'image et ce qu'elle n'est pas et ce dont on en dit pourtant. Bonjour, Kamel Daoud.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes un de nos grands écrivains, romanciers. Et votre dernier livre, Houri, paru chez Gallimard l'année dernière, a obtenu le prix Goncourt. Et vous ? Je peux vous poser la même question. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu cette photo ? Oui, bien sûr.
Première fois, non. C'est une photo d'ambiance, ou ambiante plutôt. C'est-à-dire, à l'époque, j'étais journaliste durant la guerre civile. Donc, on lisait la presse, on regardait, etc. Donc, je ne me souviens pas exactement. On voyait ce genre de photos tous les jours. Tous les jours dans les rédactions, parce qu'il fallait choisir les photos à publier ou pas. Donc, je ne me souviens pas exactement, mais je me souviens un peu de cette guerre comme un instant immobile. Donc,
et une guerre si difficile à rendre visible. Hein, ça, comme journaliste à Oran, vous deviez vous confronter à ça.
Exactement, c'est une guerre qui est indéchiffrable, comme la plupart des guerres civiles. Et le régime à l'époque voulait qu'elle reste indéchiffrable pour un peu paralyser les immixtions étrangères. Et en même temps, il y avait des lois strictes, de la censure stricte. Les journaux étaient lus aux imprimeries, donc censurés, etc. Donc les photographes n'avaient pas trop de liberté et nous n'avions pas de liberté de publier toutes les photos qu'on voulait.
Alors qu'est-ce qu'on voit, Juliette, en haut, sur ce cliché?
Sur cette photo, je voulais juste dire que même si on ne pouvait pas montrer d'autres photos, souvent les photographes de guerre ne souhaitent pas montrer autre chose et notamment ne souhaitent pas montrer des femmes atteintes dans leur corps. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de photos primées, notamment celles qui sont élues photo de l'année au World Press Photo.
Ce qui est le cas d'ailleurs
de
cette photographie. Elles se ressemblent beaucoup et on le voit.
On voit beaucoup de Pietà, beaucoup de Madone, beaucoup d'enfants morts et d'hommes blessés, mais jamais de femmes atteintes dans leur corps.
Donc c'est une femme.
Oui, c'est une femme
sa douleur.
Qui crie sa douleur, la tête renversée, un voile rouge, des couleurs sourdes. Hein, Kamel Daoud, vous parliez de douleurs sourdes dans le paragraphe qui l'évoque. Et c'est des couleurs sourdes, comme si cette photographie était un tableau qui avait vieilli. Donc elle se penche en arrière, la bouche ouverte.
On la retient un peu.
On la retient. Et une femme est penchée vers elle, lui pose la main sur la poitrine. Ce qui évoque évidemment aussi le fait qu'elle est probablement une mère qui a perdu le fruit de ses entrailles, ses enfants. Et voilà, en fait, on voit ces deux femmes qui sont toutes les deux voilées dans des couleurs qui reprennent des codes, effectivement, de l'iconographie de la Renaissance, d'iconographie chrétienne.
Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Madone. Et c'est pour ça qu'on l'a tout de suite appelée la Madone. C'est ça qui est fascinant, c'est que, effectivement, la Pietà de Bentala, la Madone de Bentala, même en Algérie, comment ça s'est passé? C'est tout à fait troublant, quand même.
Non, en Algérie, si je me souviens très bien des faits, ce qui était intriguant pour nous en tant que journalistes, ce n'était pas la photo en elle-même. On était en pleine guerre civile, je veux dire, à la limite, c'était un débat esthétique. C'était le regard de l'Occident sur cette photo et comment le régime réagissait par rapport à l'immense publicité
immédiate.
Sur la guerre immédiate que provoque à cette photo sur la guerre civile algérienne. Donc c'est un peu ce regard-là.
Et vous regardez les Occidentaux regarder l'Algérie. Hein.
Exactement. C'est une mise en abîme de la réalité. Regardez les Occidentaux, regardez cette photo, qu'est-ce qu'ils y voyaient. En fait, l'Occident se voit à travers certaines photos iconographiques et ce n'est pas un crime, c'est tout à fait normal. D'autres cultures voient le monde à travers eux. On a un biais qui est toujours là. Mais il ne faut pas oublier qu'on était en 97, l'époque des grands massacres. Et ce qu'on subissait en pleine guerre ne nous donnait pas beaucoup de temps pour nous attarder sur l'esthétique de la douleur.
Donc c'est le paroxysme de la décennie noire. On n'est pas loin, il y a des grands massacres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là précisément? Si vous pouvez nous décrire le moment où justement ce photographe arrive à Bentala et le mur sur lequel est cette femme qui crie, c'est le mur d'un hôpital.
Oui, tout à fait. Alors, le massacre de Bentala, c'est 300 personnes égorgées la veille au soir, et cette femme est prise en photo à l'hôpital où elle s'est rendue, où ses proches ont été emmenés. Ce que je voudrais dire, c'est que cette photo, sans vouloir manquer de respect à Hossein Zahorar, est à peine une production d'Hossein Zahorar, dans la mesure où il en a envoyé plein sur le fil de l'AFP. D'ailleurs, elle ne lui appartient pas, hein, c'est l'AFP qui a les droits. Et que celle-ci est un recadrage, en fait, d'une photo qui était prise beaucoup plus large. Et sur le côté, on avait des hommes en jean, un groupe d'hommes en jean dont on voit encore l'ombre sur la gauche. Et donc, en fait, ce cadrage qui fait penser à un tableau, ce n'est pas, en fait, le geste photographique d'Hossein Zahorar.
Kamel Daoud.
Les circonstances, on est en 97, c'est la période des grands massacres. Les islamistes armés avaient perdu, disons, la guerre de l'opinion, la population avait déjà basculé du côté du régime, et donc c'était une politique de terre brûlée. Ils massacraient tout, quasiment. Il y avait beaucoup de dissidence entre eux, donc ça devenait totalement surréaliste, entre guillemets, et monstrueux. Donc il y avait des massacres à Bentalha, à Raïs, à Hachekela, dans ce roman-là. Alors il faut préciser deux choses. C'est qu'on n'avait pas accès à l'information en tant que journaliste à l'époque. On avait droit à beaucoup de chiffres très 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 flous. Le régime donnait des chiffres très bas. Les chiffres qu'on avait en recoupant étaient très hauts. Et au milieu, on avait des petits réflexes en tant que journaliste, c'était d'aller à la morgue, de discuter avec les laveurs de cadavres, comme on les appelait. Et puis il y avait un autre aspect que je dois souligner, parce qu'on a beaucoup reproché à Hussein ceci et cela. La vérité, c'est que on avait aussi droit à de faux rescapés, à des vrais rescapés. En fait, la désorganisation du réel était hallucinante. On ne savait pas qui était qui. Et ça se greffait sur une question qui était absurde, c'est celle de qui tue qui, etc. Non. Moi, j'ai croisé à Hachekala à l'époque de faux rescapés. Est-ce qu'il s'agit de faux rescapés? Je ne sais pas. De vrai, je ne sais pas. Enfin, le réel était quand même très...
En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la presse occidentale, dès le lendemain, elle fait la une de tous les journaux. Par exemple, en France, c'est en même temps Libération, Le Figaro, L'Humanité, Le
aux
Monde,
États-Unis,
Sud-Ouest, et aux États-Unis, pareil.
Jusqu'en Indonésie, voilà. J'ai trouvé...
Et on dit assez rapidement, c'est une mère, comme on le dit, certains la voient aujourd'hui avec un enfant, enfin l'imaginent avec un enfant dans les bras, et pour évidemment ne rien gâcher, Kamel Daoud, pour être proche finalement du préjugé raciste, c'est une mère avec 8 enfants. On l'a entendu.
Oui. Ce que je peux en dire, c'est qu'en fait, Michel Guérin du Monde a eu apparemment Hossein Zahourar au téléphone le lendemain ou le surlendemain de la photo, et que Hossein Zahourar lui ait dit que c'est une femme à côté de lui qui lui aurait dit qu'elle avait perdu ses 8 enfants. Donc c'est une rumeur qui démarre comme ça. Alors,
en réalité, elle a perdu son frère, sa belle-sœur et son...
on ne sait pas.
C'est un peu difficile. C'est-à-dire, là, on parle de deux choses différentes. C'est-à-dire, on parle du regard de l'Occident, qu'est-ce qu'il y voit et qu'est-ce qu'il ne veut pas y voir. Et on parle du factuel. Mm. Le factuel est très difficile en état de guerre civile. On n'avait pas accès, on était surveillés. Les photographes, c'était les pires. Vous savez, si vous allez même maintenant en Algérie, faites le premier geste, sortez un appareil photo, vous avez 5 policiers autour, immédiatement. Mm. Il y a un rapport au photographe qui remonte, qui est anthropologique quelque part, et qui est très, qui ne laisse pas les photographes travailler.
Hossein Zahourar m'avait dit, quand je m'étais entretenue avec lui, qu'en fait, il avait caché sa pellicule immédiatement et qu'il en avait tendu une autre et que c'est comme ça qu'il avait pu. Sur les 8 enfants, effectivement, on n'en sait rien. Parce que, effectivement, l'État algérien a dit que c'était son frère, sa belle-sœur, mais c'est peut-être encore...
Moi, j'ai un souvenir, par exemple, d'une photo. C'était à l'assassinat de l'évêque d'Oran, Monseigneur Clavry. Et on était avec un ancien collègue journaliste, on était sur place immédiatement. Donc avec le photographe, justement, il a pris des photos. Une heure après, pourquoi on a réussi à prendre des photos et à avoir de l'information? Parce que chaque service des polices, de la police secrète, de l'armée, etc., croyait qu'on appartenait à un autre service. Donc on s'est glissé un peu dans les failles du système. Et 2 heures plus tard, c'est la police et les renseignements généraux qui débarquent. On s'est caché dans les toilettes, ils débarquent pour chercher les photos. Et le lendemain, on arrive au journal. Vous savez, au matin, quand vous arrivez dans une rédaction, vous avez droit à votre numéro. J'ouvre le journal, il existe dans les archives algériennes. Ça a été découpé. C'est-à-dire, on avait du blanc à la place des articles, etc. Donc, ce sont des circonstances difficiles. Le régime voulait contrôler absolument l'image. Les photographes qui travaillaient pour les agences extérieures, AP, Reuters, l'AFP, etc., étaient très, très, très contrôlé. Donc, il faut imaginer cet exercice dans un environnement difficile, avec un laps de temps très court, dans un système qui floute l'information exacte.
Oui, je voulais juste revenir sur cette légende des 8 enfants, c'est-à-dire que même quand le gouvernement a tenu à rectifier ça, l'AFP a fait un rectificatif, s'est encore trompé à parler de ses 9 frères. 3 jours après, c'est de nouveau a fait un rectificatif de nouveau pour dire qu'en fait c'était ses frères. Et puis 3 mois plus tard, quand Hossein Zahourar reçoit le prix pour la photo de l'année, on est reparti sur les 8 enfants.
Donc l'histoire de cette photo, c'est aussi l'histoire de ces légendes, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois de la manière dont on la légende et dans les histoires qui courent autour d'elle et qui sont le plus souvent fausses, mais d'une certaine manière, rectifier la légende pour vous, Kamel Daoud, comme écrivain, mais aussi comme citoyen, ça vous semble pas vraiment à la hauteur de l'enjeu, puisque...
Absolument.
Tout le monde mentait. Oui, enfin, en tout cas, les pouvoirs mentaient à ce moment-là.
C'est totalement secondaire. C'est accessoire. La légende, je comprends que du point de vue de l'éthique et en Occident, on est dans des systèmes qui sont très scrupuleux sur l'exactitude. L'exactitude, ça c'est quand même une invention très occidentale. Mais là, on parle d'une tragédie. Et à la limite, on a tellement émietté la tragédie qu'on a fini par parler de la légende d'une photo plutôt que de parler du massacre lui-même et de son sens. Oui. Donc c'est un peu aussi ça. Et je pense que cet émiettement était volontaire du côté du régime algérien de l'époque. On voulait déplacer le centre d'intérêt.
وام حكيت شي ناس انا بس على مر marchait pour Afrique. À la base, Aïni à la base. Ou à la base, le Hafem Hedda Chira. نحشتي ما سوتي وميتي عزيزي الصبري الله يا ميتي فراق جابو ربي ولا باس العبر ولا باس ألا باس الحب مهب الشنا
شباسني qu'on entend là, Kamel Daoud, c'était le roi du rail love, hein, du rail sentimental. Il a été assassiné à Oran par le GIA le 16 février 1995. Il avait 26 ans.
Ouais, je me rappelle très bien de ce jour-là, parce qu'il n'y a pas d'image là aussi.
Ouais.
Mais dans les rues d'Oran, c'était quand même presque un million. C'était une icône, Chabhasni. Et les circonstances de son assassinat, l'époque, la tragédie, le sens du rail, qui était quand même une sorte de résistance, mais pas une résistance politique. Il disait le réel, le rail disait le réel. Et je me rappelle de ce moment-là. D'autant plus qu'il avait chanté une chanson, il avait édité une chanson 2 mois avant sur une rumeur d'assassinat sur sa propre personne. Il raconte un peu tout ce qui s'est passé, comme quoi il aurait été assassiné 2 mois après c'est intervenu. La mort de Hasni, c'est une icône qui marque les jeunesses, les oui. jeunesses algériennes jusqu'à maintenant.
Vous êtes né après l'indépendance, vous êtes né en 1970, donc c'est votre génération d'une certaine manière, ou les Gautier, j'imagine.
J'ai eu droit à la génération d'or du rail, j'ai eu droit aux tueurs du GIA, j'ai eu droit de 20-30 ans à la guerre civile. Et donc oui, ça, je fais partie de l'histoire algérienne qui fait partie de moi.
Et puis cette guerre civile, voilà, vous affrontez ce motif sans louvoyer dans ce magnifique roman Houri qui, d'une certaine manière, rend sensible ce que dit Marguerite Duras de l'acte d'écrire, c'est hurler en silence. Et oui. d'une certaine manière, si tout roman est le portrait d'une voix, la voix de votre héroïne, de votre principale, de votre narratrice, Aube, elle n'en a pas, parce qu'elle a été égorgée et ses cordes vocales sectionnées. Donc c'est une voix intérieure qu'on entend.
C'est une voix,
langue intérieure.
Une langue intérieure, je suis d'accord, mais aussi une langue empêchée. Parce que la guerre civile ne se raconte pas en Algérie. On n'a pas le droit de le raconter, on n'a pas le droit de faire des films, on n'a pas le droit de... Le film Papicha, par exemple... Médour a été, il y a eu quand même un feuilleton incroyable, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu le visa pour être projeté à Alger, etc. Donc c'est une histoire tue, c'est une histoire muette.
Et c'est une histoire qui n'est pas vue aussi. Il faut peut-être revenir au chapitre dans lequel effectivement apparaît la Madone de Bentala dont on parle, qui est un chapitre, c'est le 26e de la première partie, tout entier... fondé sur ce motif qui est « le vois-tu hein, », qui est d'une certaine manière le leitmotiv du livre « le vois-tu ». Il y a ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire la cicatrice, justement, comme « l'homme qui rit » de Victor Hugo, mais là c'est une jeune fille, et ce qu'elle donne à voir, c'est d'abord l'omniprésence de la guerre d'indépendance. Là, c'est la placette près du consulat marocain. Tu vois le monument aux morts de la guerre contre la France, et tout le chapitre décrit la surreprésentation, la survisibilité justement des images de la guerre d'indépendance, et puis on rentre dans la maison, et c'est ça qui est très étonnant, c'est dans l'entrée qu'on trouve donc l'image qui nous préoccupe aujourd'hui, la Madone de Bentala.
C'est une image bouleversante pour moi, je peux la regarder des heures et des heures. Pour moi, c'est le portrait du silence, c'est-à-dire au-delà de la parole. On a l'impression que cet instant, c'est vous savez, ce moment où intervient le silence après l'épuisement du cri. C'est-à-dire on a tellement crié qu'il ne reste plus rien dans les poumons, dans le corps. Et c'est ce moment au-delà du cri qui est décrit, c'est un moment muet. Et c'est étrange, mais cette photo m'inspire le mot silence à chaque fois que je la regarde. C'est-à-dire un silence fabriqué, un silence inhumain, un silence au-delà de la parole et du langage, plutôt. Donc je dirais que j'aime bien la regarder, en même temps c'est quelque chose de douloureux, c'est pour tout le monde, pas uniquement pour moi, mais c'est quelque chose de douloureux pour tous les Algériens qui ont vécu cette guerre-là, et qui n'en parlent pas, qui ont perdu des êtres chers qui ont perdu des années de leur vie, etc.
La photo suspendue crie, et le temps est tétanisé pour elle et pour moi et pour nous tous, et rien ne se passe pour nous défaire de ce saisissement. Et ce qui vous a saisi, vous, Juliette Henrot, c'est que précisément comme historienne, micro-historienne, j'allais dire, de cette image, qui est quand même une photographie de presse, c'est de la voir dans cet espace romanesque, comme un tableau, en somme, enfin, je veux dire, affiché dans l'entrée.
Oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur le mot de silence parce que je pense qu'en Occident, c'est pas un mot qui serait venu. En tout cas, c'est pas un mot qui vient dans la bouche des commentateurs. On parle de souffrance extrême, mais je pense que cette notion de silence ne nous atteint pas puisque nous, on a le droit de parler. On a le droit de parler, de la commenter, cette photo, de la mettre partout. Enfin, moi, ça, c'est ce qui m'a frappé surtout dans le roman, c'est que cette cicatrice qu'on ne veut pas voir chez la jeune fille renvoie à toutes ces photos qui ne sont pas publiées. En France, c'est les photos justement des égorgés, c'est les photos où on voit véritablement la blessure.
Elles existent, ces photos ?
Oui, il y a beaucoup de photos. Même, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte d'obsession de l'image du pays. Vous savez, nous avons des lois où nous pouvons être condamnés pour atteinte à l'image du pays. Et l'obsession de l'image, elle remonte peut-être à la guerre de libération, de décolonisation. Vous avez parlé tout à l'heure d'une surreprésentation de la guerre d'indépendance. En fait, c'est avec l'âge que j'ai découvert que c'est la surreprésentation d'un segment de la guerre. C'est-à-dire, on est dans une sorte de récit de l'Algérien colonisé pauvre, dépecé, tué, écrasé, paysan surtout, mais on n'a pas des photos des élites urbaines, par exemple. On voulait consacrer un segment de cette histoire-là et pas toute la réalité. Par la suite, pour la guerre civile, il y a eu beaucoup de photographies, mais on ne les publiait pas dans les journaux.
Elles sont totalement invisibles. J'ai passé 3 ans dans les archives. On ne les voit pas. Et là, si on refait une recherche Internet, même quand on utilise l'IA, j'ai essayé ce matin, elle n'existe pas. J'ai demandé justement ce matin à l'IA de me retrouver cette photo, l'unique photo que j'avais trouvée, qui était celle d'une petite fille égorgée qu'on remonte d'un puits. Elle a la tête renversée en arrière, la blessure est béante. Et cette photo, je ne l'ai vue que 2 fois. Une fois publiée dans Jeune Afrique dans la première semaine de septembre, mais renvoyée en page 16 parce que la une, c'était Lady Di et Mohamed Al-Fayed. Dodi Al-Fayed. Et une fois dans Paris Match, sur une double page, mais floutée. La blessure est floutée pour ne pas choquer le lecteur, ce que dit Paris Match. Et en plus, c'est imprimé. La blessure est à la jointure des 2 pages. Donc même si on voulait, on pourrait pas vraiment la voir. Et depuis, plus rien.
Mais c'est pour ça, d'ailleurs, il y a évidemment un tabou sur le sang. On en a beaucoup de photos de presse. C'est pour ça que ce modèle de la Madone, en somme, il est si prégnant. Et encore aujourd'hui, vous nous disiez combien, Juliette Henrot, les photos primées sont souvent, et d'ailleurs la toute dernière, sur une femme palestinienne, sont souvent sur ce modèle-là, d'une mère des douleurs.
Et pour ça, d'ailleurs, on aime beaucoup les femmes voilées pour ça, hein, parce que ça, sur la photographie primée, ça nous renvoie vraiment à cette iconographie dont on est... Oui, c'est vraiment une déploration, une descente de croix, celle qui a été primée en 2024.
Kamel Daoud.
Non, pour revenir un peu à la question des photos, ces photos existent dans les archives des agences de presse. J'ai travaillé dessus, même pour ce roman. J'ai beaucoup de photos dans son... Et puis, personnellement, j'avais des archives personnelles. On avait des photographes qui prenaient beaucoup de photos qu'on ne pouvait pas publier. Et donc, qu'on gardait, j'en ai beaucoup. J'en ai des dizaines. Ce sont des archives personnelles. Mais, effectivement, elles n'étaient pas publiables. Par injonction politique, peut-être, mais aussi par souci éthique. Mm-hmm. Dans les rédactions, on avait toujours ce souci, est-ce qu'il fallait faire de la publicité aux terroristes ? C'est-à-dire, parce que eux, c'était l'effet de sidération qu'ils voulaient créer. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? C'est un dilemme. D'ailleurs, chaque soir, je me rappelle, on avait cette discussion houleuse, est-ce qu'il fallait donner le vrai chiffre ou pas ?
Oui, oui.
Parce que c'est comme... Dans Ouri, j'ai repris des archives de presse réelles.
Oui.
Lorsque un des émirs des groupes islamiques armés, fait une mise au point au journal en disant « Non, je n'ai pas assassiné 31, mais 43. Veuillez préciser. » Vous imaginez l'enjeu de l'exactitude à cette époque-là et l'enjeu des chiffres.
Oui, mais cette exactitude, alors c'est intéressant parce qu'elle met aussi en jeu votre rapport à la photographie, Kamel Daoud. Si je
peu décalé un petit peu, vous avez aussi, on vous doit une très belle exposition à Lima en 2022 sur et avec les photographies de Raymond Depardon, celles qu'il avait prises en 1961 et celles qu'il avait ramenées d'un voyage avec vous d'ailleurs en 2019. Et le catalogue a été publié par l'admirable éditeur algérien Barzac, qui a été votre premier éditeur en 2008. Vos premières nouvelles, c'était chez Barzac. Son titre est très beau, un peu mystérieux, son œil dans ma main, et vous y écrivez « Raymond Depardon photographie ce qu'il voit à la jonction de ce qu'il ne voit pas. Je regarde ce que je ne vois pas en croyant savoir ce que cela signifie, son œil dans ma main », ce qui correspond d'une certaine manière à votre art d'écrire aussi.
Oui, enfin...
Voir à la jonction de ce qu'on ne voit pas.
Oui, parce que le fait d'écrire quand on est algérien sur l'Algérie, sur une tragédie algérienne, il vous faut de la distance, il vous faut le regard d'autrui pour pouvoir vous décaler, pour pouvoir mieux percevoir. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut raconter de l'Algérie? Par exemple, même pour le système politique actuel, comment l'expliquer aux autres? Comment expliquer cet usage de la photo, de la représentation, cette hallucinante affaire de la Madone de Bentalha pour nous, les journalistes algériens de l'époque? On voyait tout un système politique qui n'avait aucun souci de la vérité, s'appliquer d'une manière incroyable à exiger la vérité de la légende de cette photo. Donc on est dans des systèmes qui sont un peu difficiles. Donc c'est vrai, pour Depardon, c'était une très belle expérience, parce que je voulais le voir en train de photographier et je voulais voir les Algériens être photographiés, ce qui met souvent mal à l'aise les gens. Les photos de Depardon, de Raymond, elles ont été possibles parce que nous étions en 2019. C'est la chute de l'ancien régime, le nouveau n'était pas encore installé.
Oui, il y a un autre temps,
comme toujours, ouais. Où on peut faire des choses. Mais si vous allez maintenant avec deux appareils photo en tant que...
C'est fini.
À l'aéroport. Mmh. Vous êtes refoulé à l'aéroport. Donc il y a un souci de l'image qui est extraordinaire.
Alors, vous savez que notre ami, le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, qui dirige le département culture et création des centres Beaubourg, nous envoie des cartes postales des fois. Ben, ça y est, on en a une.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, ouvrez la bouche et faites or. C'est ce que vous demande le dentiste, tout en vous assurant que son intervention ne vous fera pas du tout mal. Réduit à l'impuissance, renversé sur le fauteuil, l'occiput fermement calé dans l'appui-tête, vous voilà donc commis à émettre un son inarticulé tout en réfrénant d'avance ce que celui-ci pourrait contenir de souffrance. Le praticien vous demande en somme de gémir rassuré. On ne saurait s'étonner qu'il y ait face à cette demande paradoxale en chacun de nous un enfant terrifié. C'est au fond ce que mettait en scène en 1976 le film Marathon Man. Vous vous souvenez? Un tortionnaire nazi, armé d'une fraise de dentiste, y attaquait la mâchoire du héros et en gros plan ne cessait de répéter « Is it safe ?» et en version française « C'est sans danger ». C'est que la bouche n'est pas n'importe quel organe. Vous vous y exprimez et elle vous expose. Une parole s'y élève, un être y proteste contre sa propre finitude, et une chair fragile s'y laisse voir qu'il y ramène incessamment. C'est ce renversement, cette volte-face de la bouche qui fait du cri l'expérience la plus déchirante du monde, puisque dans chaque cri s'enroule la certitude qu'il y a là quelqu'un et l'effroi de cette voix ravalée à n'être plus que stridence, palpitation, rumeur, chose parmi les choses. Pas étonnant alors qu'une querelle fameuse de l'histoire de l'esthétique est précisément portée sur la question de savoir s'il faut ou non ouvrir la bouche dans la peinture, la sculpture ou la poésie. La question agita le XVIIIe siècle. Comment comprendre que, dans le groupe sculpté représentant Laocoon et ses fils attaqués par des serpents, groupe déterré à Rome en 1506, le personnage apparaisse bouche mi-close, là où le poète Virgile le décrivait pourtant jetant vers les cieux des cris épouvantables? Johann Winckelmann voit dans cette bouche réduite à une mince fente le signe de la grandeur d'âme de Laocoon, dont le visage calme fait pièce à la douleur perceptible dans chaque muscle du corps. À cette interprétation morale, Lessing oppose quant à lui les contraintes propres à chaque médium artistique. Je cite, La simple ouverture de la bouche forme dans la peinture une tache et dans la sculpture un creux de l'effet le plus désagréable. Winckelmann, comme Lessing, sont au moins d'accord sur un point. Dans l'art, ce ne serait pas comme chez le dentiste. Il faudrait au contraire souffrir, mais la bouche fermée. Le siècle des Lumières a ainsi fermé la bouche que l'iconographie chrétienne avait laissée béante. Cette bouche que les artistes n'ont eu de cesse depuis de vouloir rouvrir, quitte à déchirer les images, à y multiplier les taches et les creux. Maxillaire démesurément allongé par le cri, chez Edvard Munch, mâchoire déboîtée des papes de Francis Bacon, leurs mains agrippées aux accoudoirs du trône, bouche distendue par une fellation forcée sur cette toile de Myriam Khan, dénonciation des exactions commises en Ukraine, vandalisée l'an dernier au palais de Tokyo, comme pour la faire deux fois taire. Ce vandalisme était idiot et inutile. Chez Myriam Khan, même lorsque les figures pincent leurs lèvres minces, la couleur hurle autour d'elle, elle crie, la bouche grand fermée.
France Culture. Allons-y voir, Patrick Boucheron.
Elle crie la bouche grand fermée, ben voilà, c'est tout ce qu'on lit aussi dans votre livre.
Quelque part, oui, elle crie la bouche fermée, mais ce n'est pas par choix, c'est parce qu'elle a subi une tragédie, comme beaucoup, comme des dizaines et des dizaines.
Et ça s'inscrit, évidemment, on le comprend, Juliette Enroux, dans toute une histoire de l'art. Et une histoire de l'art qui nous la rend possible, pensable. C'est parce que, voilà, tant de femmes peintes à la Renaissance hurlent en silence, ouvrent grand la bouche, qu'on peut s'émouvoir. Alors, je sais bien que ça vous indigne, Juliette, davantage que vous, Kamal Daoud. Oui, ça nous indigne de considérer, au fond, qu'on ne pourrait vraiment s'émouvoir que lorsque ça nous ressemble, lorsque c'est une Pietà, lorsque c'est une Madone.
Ça peut, oui, alors je ne sais pas si je suis indignée. Alors s'émouvoir ou avoir un intérêt poli pour la chose, comme dirait Roland Barthes, hein, parce que c'est quand même un...
Ah, c'est plus que ça, parce que dans votre livre, vous dites c'est vraiment une image pieuse, c'est vraiment oui. une image religieuse, puisqu'elle fait des miracles, et ce miracle, c'est de nous intéresser enfin à cette guerre de la décennie noire, qui jusque-là ne faisait de loin pas la une des journaux occidentaux.
Alors c'est ce que disent les commentateurs, en fait, quand elle fait... Il y a plein de gens qui s'intéressent au succès de cette image, et qui disent, voilà, elle a fait des miracles. En fait, il n'y a pas eu tellement de changements dans l'attitude des gouvernements occidentaux, ni même de l'ONU. Il n'y a pas un avant-après. Mais c'est vrai, je pense surtout que c'est ce qui fait son succès, parce que cette Vierge éplorée, c'est un code esthétique, symbolique, qui nous permet en fait de comprendre tout de suite ce qui se joue. Et de nous faire représenter la douleur la plus extrême, la souffrance la plus extrême, qui est celle d'une mère qui a perdu son fils.
Kamal Daoud.
Non, je voulais juste rappeler quelque chose, c'est qu'à l'époque, le régime algérien avait une obsession, celle de du risque d'internationalisation du conflit algérien. Et donc, le prestige de cette photo était perçu aussi à travers ce risque-là, de voir le monde entier s'immiscer dans le conflit algérien et donc l'internationaliser.
Alors justement, ce qui s'est passé à ce moment-là, à l'intersection de ce problème moral que pose toute instrumentalisation émotionnelle d'une photo de presse et des intérêts aussi du régime algérien, bah c'est qu'à un moment on s'est souvenu que cette femme n'était pas qu'une femme de papier, c'était une femme et qu'elle avait aussi la parole et qu'elle a pris la parole pour contester auprès de l'AFP l'instrumentalisation de son image. Comment ça s'est passé, Juliette Enroux? Il y a eu un procès.
Oui. Mais alors, elle a pris la parole. Je sais pas. À peine, cette femme est analphabète.
On lui a donné la parole.
Voilà. Ouais. Son avocat était l'avocat du journal Horizon, qui est pro-gouvernemental. Alors, voilà. Je dis peut-être des bêtises. Peut-être l'histoire est plus compliquée que ça. Mais en tout cas, est-ce qu'elle a vraiment pris la parole? Elle a été elle-même instrumentalisée, il me semble. Et on lui a dicté beaucoup de ce qu'elle avait à dire.
Oui, enfin, en termes de propagande, le régime n'est pas très inventif. Je veux dire, ce sont toujours les mêmes méthodes. Ça commence par détruire la légitimité de la chose, après s'attaquer à l'intégrité morale de celui qui produit la chose, et par la suite convoquer des témoignages. Je veux dire, c'est très courant en Algérie. Cet épisode est connu aussi en Occident, parce qu'il touche un objet connu, qui est la Madone. la photo de la Madone de Bendelham, mais en général, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, quand on commence à mener une cabale contre un opposant, ou contre un artiste, contre un écrivain, ça se passe toujours de la même manière.
Vous voulez dire que c'est votre cas aujourd'hui, Kamel Daoud, oui. Puisque le 15 novembre de l'année dernière, sur une chaîne de télé algérienne, une femme, Saada Arban, rescapée d'un massacre qui a emporté sa famille durant la guerre civile, a dit qu'elle s'était reconnue dans votre héroïne, dans votre personnage, et s'en est offusquée, et ça a déclenché une polémique, du moins une mise en accusation.
Non, c'est l'inverse. La mise en accusation était déjà là dès l'apparition du roman. Dès le début, dès la première semaine, mais ça n'a pas percolé en France, c'est-à-dire on ne s'y intéressait pas comme d'habitude. Mais la première semaine de l'apparition du roman, dès qu'ils ont appris le sujet du roman, ça s'est déclenché avec les mêmes médias, les mêmes éditoriaux de journaux gouvernementaux ou pas, les mêmes médias privés, etc. La pointe de l'iceberg, c'était le Goncourt. C'est à partir de ce moment-là, c'est devenu une affaire à retentissement. Et au fait, c'est toujours comme pour la Madone de Bendelham, dès qu'il y a une consécration internationale, ça va de pair avec une féroce campagne qui est la même violence. Maintenant, que des gens se reconnaissent dans ce roman, mais heureusement et malheureusement à la fois. Heureusement parce que je parle d'une guerre que tout le monde a vécue, et malheureusement parce que c'est aussi la réalité. Il y a eu des dizaines, sinon des centaines de cas comme ça. Donc, moi, je m'y attendais, pour être sincère. Et ce qui m'a un peu fait sourire, mais un sourire amer, c'est que je ne savais pas que j'allais subir le sort de Hussein. L'auteur de la, alors que j'en ai parlé dans ce roman-là, c'était à la fois une sorte de hasard malheureux, de signe, etc. Mais le régime chez nous depuis toujours veut contrôler absolument l'image internationale. Et donc, quand vous écrivez sur un sujet et que ce sujet-là est consacré à l'international, et surtout pour le Goncourt, parce que ce qui obsédait, ce n'était pas le Goncourt uniquement, c'était le Goncourt, un prix français donné en France et qui signifiait des traductions dans le monde.
C'est pas tout à fait la même chose. De toute façon, Juliette Henrot, des discussions sur ce qui peut y avoir comme personnage littéraire, enfin, personnage réel derrière une fiction littéraire, que la question de la photo de presse qui, de toute façon, objectivement, prend l'image de quelqu'un à un moment donné. Et ça, c'est aussi depuis bien longtemps, parce que, justement, les images du Vietnam, les images, c'est un dilemme moral qui revient fréquemment dans l'histoire de la photographie.
C'est pas tellement un sujet qui revient quand les photoreporters, les journalistes de guerre parlent pas tant de ça que du problème éthique que leur pose le fait de montrer, justement, l'horreur. C'est plutôt ça où le problème éthique se pose pour eux.
Oui, quand ils sont photographes occidentaux qui interviennent dans des conflits où la question serait celle, est-ce que je suis un être humain qui intervient pour sauver ou est-ce que je dois photographier le drame lui-même? Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a eu quand même des cas où des photographes, parce qu'ils ont pris la bonne photo au bon moment, ont été par la suite rattrapés par le réel, entre guillemets, par des gens qui prétendent ceci ou cela. Donc oui, c'est quand même complexe parce que le romancier a droit à la fiction. Il est sous le parapluie de la fiction. Et c'est un droit absolu. Mais un photographe photographie le réel. Donc, oui. C'est un peu difficile pour lui.
Juliette Henrot.
Il photographie le réel. En même temps, la photo n'existe qu'à travers sa légende. Et une photo, on peut lui faire dire n'importe quoi. On peut faire dire n'importe quoi aux images. C'est ce qui agaçait Pierre Bourdieu, d'ailleurs, quand il...
Ah ben, on va en parler, justement, de Pierre Bourdieu et l'Algérie. On va parler de la question même de l'Algérie et de la photographie avec Pierre Saint-Garavelou. Mais en attendant, si on s'écoutait une nouvelle chanson de Cheb Hasni.
الزرق عدوتي ما نديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرق في دي العام يا دار بروب يا مياه يا الزرق عدوتي ما نديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرق في دي العام يا دار بروب يا مياه
البيضة مون أمور البيضة مون أمور والبيضة مون أمور يا ناشي ضايس حروية سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا
Pierre Saint-Carré-Vélou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez chaud bouillant, là. Je vous voyais derrière la vitre, là. Vous vouliez intervenir pour mettre une histoire un peu plus longue, en fait, dans cette, de longue durée, dans cette, ce rapport entre la photographie et l'Algérie, c'est ça?
Et oui, bien sûr, parce qu'il faut se demander comment la photographie est arrivée en Algérie. Vous n'êtes pas sans savoir, Patrick Boucheron, que nous allons célébrer l'année prochaine le bicentenaire de l'invention de la photographie.
Mmh. On en parle
inventé par Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône. Et cette photographie circule très rapidement, dès le milieu du 19e siècle, et notamment à travers la colonisation française en Algérie, puisque l'essor de ce médium suit la conquête militaire française. Et on voit bien dans les nombreuses photographies qui sont prises au cours de ce second 19e siècle, comment les opérateurs européens se focalisent un peu toujours sur les mêmes sujets. Mmh. Ils s'intéressent beaucoup, évidemment, aux armées, aux officiers, aux administrateurs coloniaux, mais aussi aux paysages pittoresques, alors aux femmes algériennes, hein, qui sont dépeintes sous les traits de Mauresque, et puis aussi aux sites archéologiques. Les sites archéologiques qui obsèdent les Français à ce moment-là, parce que c'est vraiment un des fondements de cet orientalisme photographique. Il s'agit de montrer en quoi les Français sont les successeurs, ou seraient les successeurs des Romains, hein, de la colonisation romaine, et comment en témoigner? Eh bien, à travers précisément ces nombreux sites archéologiques romains en Algérie, mais aussi en Tunisie. Et donc cette photographie orientaliste, elle peut être incarnée par Félix Jacques Moulin, qui est un des plus célèbres photographes du milieu du 19e, qui séjourne en Algérie notamment en 1856, et qui est un adepte de la photographie d'atelier, où il compose des portraits alors à la fois de coloniaux, mais aussi de chefs arabes qui choisissent, hein, la stratégie de la coopération avec les Français, et puis toujours avec des jeux de draperie, des tapisseries assemblées. Et ce Moulin, eh bien, publie un album de référence intitulé « L'Algérie photographiée », qui est dédicacé précisément à Napoléon III.
Oui, alors il y a cet orientalisme photographique, mais il y a aussi la photographie ethnologique. Juliette Henrot parlait de Pierre Bourdieu. Ben, c'est peut-être le moment, Pierre Saint-Garavelou, de nous dire que le rapport entre l'enquête algérienne, Pierre Bourdieu et la photographie, il est vraiment structural,
décisif,
déterminant.
Oui. Décisif. Avant Pierre Bourdieu, on peut dire un mot de Thérèse Rivière qui, dès 1934, aux côtés de Germaine Tillon, alors qu'elle est en mission pour le Musée de l'Homme qui va ouvrir ses portes en 1937, photographie les pèlerinages, les mariages ou encore les transhumances avec une attention toute particulière aux gestes du quotidien. Et bien sûr, Pierre Bourdieu, quelques années plus tard, au tournant des années 1950 et 1960, alors qu'il est jeune agrégé de philosophie, se rend en Algérie pour effectuer son service militaire. Et c'est là, au fond, qu'il adopte ce qu'il appelle le regard d'ethnologue compréhensif, où il va prendre de très nombreuses photos qui sont d'ailleurs demeurées pendant 4 décennies dans des cartons. On les a découvertes, redécouvertes assez tard. Et Bourdieu, au fond, s'intéresse beaucoup, enfin utilise beaucoup la photographie comme un instrument de travail. Photographie beaucoup aussi le travail des femmes, les maisons, la maison kabyle, bien sûr, beaucoup de portraits d'enfants. Et il considère que la photographie est un moyen d'entrer en contact avec la population, hein, pour le jeune ethnologue qu'il est, mais aussi un moyen d'appréhender autrement le monde social.
Mais en fait, la véritable matrice, si on poursuit dans le temps, de la photo algérienne, ça reste, et là on s'approche évidemment de notre sujet, ou en tout cas on le rejoint, ça reste la guerre d'indépendance.
Oui, parce que en fait, ce grand conflit de décolonisation, c'est aussi une guerre des images. Mmh. Il faut bien dire que ce qui prédomine, ce qui écrase les imaginaires jusqu'à aujourd'hui en Europe, du moins, ce sont les photographies produites par les Français, la plupart du temps dans un but de propagande. Alors d'abord parce que les appareils photographiques étaient très rares, mais aussi en raison du contrôle par l'armée française de la production de photographies sur le terrain militaire, et puis aussi de la censure. Censure très stricte qui interdit aux civils et aussi aux simples soldats d'utiliser un appareil photo. Alors, ça veut dire que l'usage des appareils photo est réservé aux officiers de renseignement, aux officiers de presse et d'action psychologique. Et vous avez sans doute aperçu, par exemple, les images du sergent-chef Marc Flamand, le photographe, le fameux photographe du colonel Bijard, qui a produit les photos les plus diffusées, les plus connues, les plus emblématiques, parce que c'est lui qui a véritablement héroïsé l'action des paras de la Casbah d'Alger. Il les a suivis jusque dans le désert. Il a réalisé des milliers de clichés et il a réussi à travers son œuvre à rendre sympathique, à rendre populaire ce qu'on a appelé les longues casquettes, hein, ces paras, tout en stigmatisant les soldats du FLN.
Bah oui, Kamel Daoud, parce que effectivement, puisque vous disiez tout à l'heure, vous intéressez à la manière dont les Occidentaux regardaient, les Français en particulier, regardaient l'Algérie. Là, effectivement, il faut aussi considérer cette saturation de l'espace visuel. Alors, du côté de l'Algérie, c'est effectivement ce dont vous êtes l'implacable historien du visible, du réel, dans votre roman Houri, c'est-à-dire cette sursaturation de l'espace public par la commémoration de la guerre d'indépendance. Mais du côté français, c'est ça, en fait.
Oui, mais la sursaturation, comme vous le dites, en Algérie, elle est biaisée. C'est-à-dire, on a un hyper-récit dominant, mais qui n'est pas incarné. C'est-à-dire que même pour la photographie algérienne, moi, je fais référence aux photos de Raymond Depardon sur les accords d'Évian, par exemple. Moi, enfant de l'Algérie, des manuels scolaires algériens, on n'en avait pas connaissance. Parce qu'il s'agissait de signataires civils, portant des cravates, des costumes, dans une iconographie qui donnait le premier rôle pour les militaires, l'homme armé, l'homme qui, etc. La deuxième des choses, c'est qu'il y avait un système de grâce et de disgrâce. Krim Belkacem a été le signataire des accords d'Évian de l'indépendance algérienne, a été assassiné par la suite. Donc les photos où il apparaît dans les accords d'Évian ne doivent pas être publiques, elles ne sont pas jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc on a pensé par exemple à l'exposition que Raymond Depardon et moi nous avions organisée à Paris, faire la même chose en Algérie, ça n'a pas été possible. Donc il y a encore aussi un regard sur soi qui est un regard hyper politisé qui obéit à des contraintes politiques. Donc oui, de l'autre avant 62 et aussi après 62. Nous n'avons pas beaucoup d'images de la guerre civile, elles sont rares, publiques, je veux dire, dans les archives, elles existent. Nous n'avons pas beaucoup d'images des événements d'octobre quand l'armée a tiré sur la foule avec un bilan à peu près de 500 jeunes morts. Nous n'avons pas beaucoup d'iconographie.
Pierre Singer.
Oui, c'est vrai. Il faut dire que la guerre d'Algérie, la guerre de libération, a été aussi peu étudiée du point de vue algérien. Je veux dire par là le rôle de la photographie algérienne.
Il y a un livre récent qui vient de paraître.
Il y a un livre récent qui vient de paraître et ce sont en fait les travaux de Marie Chaumineau qui ont été décisifs en France pour mettre en lumière le rôle des photographes algériens, assez récemment au fond, hein, notamment à travers la figure de Mohamed Kouassi, qui a été le principal opérateur du FLN, et c'est Marie Chaumineau qui a retrouvé ses archives, parce qu'il se trouve que ensuite, après la guerre, il a monté une petite boutique de photographie à Alger, et c'est son épouse qui a conservé ses archives. Et Mohamed Kouassi, il a un parcours assez extraordinaire, parce que jeune, il séjourne à Paris à partir de 1946, il est tourneur-fraiseur dans une usine dans le 15e arrondissement et il prend des cours du soir de photographie, fréquente les étudiants du FLN dans le 5e arrondissement et il suit précisément ces étudiants algériens à Moscou à l'été 1957 au Festival mondial de la jeunesse pour la paix et l'amitié et c'est là que débute sa carrière au service de la révolution algérienne puisque pour la première fois en 1957, il immortalise le drapeau vert et blanc frappé du croissant et de l'étoile qui va être promené dans le stade Lénine hein, à Moscou. Hein, ça va susciter beaucoup de remous dans la délégation française. Et à partir de là, Mohamed Kouassi et son épouse suivent la troupe théâtral du FLN, dont il devient le photographe officiel, qui va se produire en Libye, en Yougoslavie, etc., avant de devenir le principal photographe du nouveau ministère de l'information du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui se trouve à Tunis. Et c'est très important parce que ça explique pourquoi Mohamed Kouassi, tout en étant le père, d'une certaine manière, de cette photographie algérienne contemporaine, eh bien, a réalisé exclusivement des photos de réfugiés algériens en Tunisie, des photos de soldats de l'armée de libération nationale armés parfaitement et très bien équipés d'uniformes modernes, mais uniquement cantonnés en Tunisie, du côté tunisien de la frontière, mais n'a pas pu capturer les affrontements et les combats dans les maquis.
Rappelez-nous le titre du livre, c'est aux éditions du CNRS, c'est ça ?
Alors oui, ce livre s'intitule « Algérie », sous-titré « La guerre prise de vue », dirigé par Marie Chaumineau et Sébastien Ledoux, paru il y a quelques mois et injustement inaperçu par la presse.
Kamel Daoud, ça c'est intéressant, évidemment, c'est un autre continent visuel.
Mais tout à fait, ça comble des blancs aussi dans ma propre formation, parce que encore une fois, on revient au cas d'un pays où l'histoire est verrouillée. Donc ça restait quand même une sorte de huis clos, d'archives. C'est la question des archives aussi en Algérie, photographiques ou pas.
Là, on a quand même une asymétrie avec ce dont vous êtes l'historienne si scrupuleuse, Juliette Henroux, c'est-à-dire cette diffusion mondiale massive de l'image globalisée de notre Madone de Bentala, face à cette rareté ou cette retenue photographique.
Oui, la manière dont, cette photo, vous disiez un regard sur soi tout à l'heure, Kamel Daoud, ce n'est pas un regard finalement sur la guerre d'Algérie, c'est un regard sur soi aussi. C'est comment les Occidentaux ont envie de regarder le massacre finalement. Et on la sort complètement, elle est totalement décontextualisée à un point qui a cet élément amusant, mais je pense pas tout à fait anecdotique, que je l'ai retrouvé dans le magazine L'Histoire pour illustrer un article sur la commémoration de l'édit de Nantes. Non légendé.
Ça veut dire que c'est devenu, alors plus qu'une icône, c'est devenu une métaphore en somme.
Absolument. Ce n'est même plus un tableau qui aurait été légendé, ça n'est plus rien.
Mais alors il y a quelque chose qui est troublant, Kamel Daoud, c'est d'ailleurs l'objet de votre livre ou de vos réflexions publiques, c'est que justement dans le chapitre dans lequel intervient la Madone de Bentala, où on la voit, votre narratrice Aube dit finalement... La guerre d'indépendance, c'est comme une grande sœur qui laisse pas de place à sa cadette, on ne voit qu'elle.
Écoutez, je n'aime pas, parce qu'on m'a fait dire ça, parce que ce n'est pas vrai, je n'oppose pas les deux guerres, je ne les hiérarchise pas, je refuse qu'elles soient hiérarchisées et qu'elles soient opposées. Ce n'est pas parce que je parle d'une guerre civile et que je réclame le droit de parole et de mémoire et d'histoire aussi sur cette guerre civile que je récuse le récit de décolonisation. Mais toujours est-il, c'est que je vous raconte une anecdote que j'ai racontée dans un autre journal récemment. Quand j'ai publié ce roman, j'ai eu quand même des appels d'intellectuels algériens. L'un d'eux m'a dit « Mais pourquoi vous ne parlez pas de la vraie guerre ?» C'est-à-dire, il y a une vraie guerre, il y a une fausse guerre. Il y a une vraie guerre avec des vrais morts, parce qu'elle a été faite et menée par une puissance étrangère sur un sol algérien. Et il y a une guerre fictive, parce qu'elle n'a pas d'archives, pas d'historiens, pas de photos, et qui n'a pas de vrais morts. Je refuse. Cette hiérarchie, je la refuse. Il y a des morts dans toutes ces époques-là.
Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Saint-Garavelou, de cette asymétrie ?
Ouais, je pense que c'est évidemment un point de vue qui est très intéressant pour, disons, le public français et les chercheurs français qui ont tendance à considérer précisément que, cette guerre d'Algérie, son histoire a été profondément renouvelée ces dernières années par des travaux aussi bien de chercheuses et de chercheurs d'origine algérienne que évidemment, des chercheurs français, beaucoup de recherches aussi en Amérique du Nord.
Sur l'ordinaire de la guerre.
Sur l'ordinaire de la guerre, sur une histoire de la guerre aussi par le bas. Je pense à cet ouvrage qu'on a évoqué à l'instant, dirigé par Marie Chaumineau et Sébastien Ledoux, qui nous montre des images qui précisément n'étaient pas destinées à être publiées. Et qui ont été presque toutes réalisées par des amateurs et qui, pour beaucoup, en fait, relèvent de la sphère intime. Dans ce livre, on a par exemple des photos de familles de combattants FLN dans le maquis et qui montrent pour la première fois au grand public l'implication des civils, le rôle des femmes, des adolescents. Donc il y a par exemple des photos d'Abdelmalik Kitouni qui pose dans le maquis avec sa femme Djoura et leurs enfants. On voit aussi dans ce livre ce qui doit être caché, ce qui est interdit, ce qui est dissimulé par le secret militaire, comme la torture, les violences extrêmes.
Je voudrais justement vous faire entendre pour terminer un témoignage que je trouve assez touchant. C'était en 1998 de notre photographe, du photographe de la Madone de Bentala, c'est Hossine Zaourar. Voilà ce qu'il disait.
Pourquoi cette photo? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas.
Là, maintenant, avec la distance, est-ce que tu n'as pas le sentiment que la dernière, elle raconte aussi énormément de choses?
Je ne vous le cache pas vraiment. C'est-à-dire, la dernière, moi, je viens de la découvrir. Parce que je n'ai pas eu le temps de scanner tous les photos.
Tu la découvres, là, aujourd'hui. Et ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que la première. Donc, c'est les deux extrêmes.
Ouais. Voilà. Et ça t'arrive souvent de ne pas voir tes photos vraiment?
Vous savez, quand on vit un moment pareil, on essaie de faire une sélection de deux ou trois photos et on coupe toute la longueur du film en bandes de 6 et on arrange ça dans des pochettes. Je ne vous le cache pas, j'ai plus envie de les revoir.
Pourquoi tu n'as plus envie de les revoir?
J'ai plus envie de les revoir, c'est parce que tout simplement, non seulement j'ai vécu une réalité, j'étais là sur place, j'ai vu. Et j'ai plus envie de revoir encore les photos une seconde fois pour repenser encore une fois du drame, de ce qui s'est passé.
Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Oui, allons-y voir, mais parfois on a envie de fermer les yeux aussi. Vous comprenez ça, Juliette en haut? Vous qui avez si longtemps regardé cette image, ben voilà, son photographe dit « pardon, mais moi j'ai plus envie de la voir ».
Dans le cas des Occidentaux, je pense ouvrir les yeux, oui, mais ouvrir les yeux sur ce qu'ils choisissent de voir. Et Hossine Zaourar m'avait dit « cette photo ne m'a apporté que des ennuis ».
Oui.
En plus de...
Voilà. C'est quand même...
autre raison pour laquelle il ne veut plus la regarder plus.
Oui, ça nous regarde, nous historiens.
Ça nous regarde et ça nous invite aussi à réfléchir à nouveau sur les conditions de production de l'image médiatique. Ça nous rappelle qu'au fond, l'auteur de cette photographie, c'est aussi bien l'iconographe et ou le responsable de la maquette, par exemple, dans des cas très concrets, qui va recadrer la photo et qui va la titrer. Donc ces conditions de production sont vraiment décisives pour l'intelligence de ces œuvres et de ces images.
Évidemment, vous, Kamel Daoud, vous pensez que dans une société, le choix décisif, c'est faut-il se souvenir ou faut-il oublier? L'oubli, il est une obligation légale. En Algérie, on peut même être condamné pour avoir justement rappelé les horreurs de la guerre. Pour vous, faut ouvrir les yeux.
Oui. Mon rêve, c'est de voir un jour la Madone de Bentalha, de Hossine, figurer dans le manuel scolaire algérien. Ça, c'est mon rêve. Parce qu'on aura assumé une histoire pour pouvoir la réparer, pour qu'elle ne se reproduise pas. Parce que pour le moment, on ferme les yeux. Et quand on ferme les yeux sur une histoire, ça se reproduit sur nos enfants et les générations qui suivent. Moi, je voudrais voir cette photo dans les manuels scolaires algériens.
Et pour l'instant, on en est très loin.
On en est très loin par la force de la loi, par le refus d'assumer une partie de son histoire, par une hiérarchisation des guerres, de la mémoire aussi. Et donc, on est très loin de la réparation intime, surtout.
Vous la citez même en exergue de votre roman Houri, prix Goncourt, Kamel Daoud, cette loi qui interdit de rappeler le passé.
Franchement, au bout de 20 ans, je voudrais tellement que cette loi, ce décret-là, enfin cette loi-là, soit abolie pour qu'on puisse se souvenir. Non pas pour réouvrir les blessures ou pour juger ou pour quoi que ce soit, c'est juste pour qu'on puisse assumer, parler et passer à autre chose et nous réparer nous-mêmes.
Merci Kamel Daoud, merci Juliette Enrault, merci Pierre Saint-Garavelou. Toutes les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de l'émission. Une émission préparée par Aline Biette, Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Sacha Krine et à la réalisation Laurence Millet.